semaine, dans À Voix Nue, Pierre Charvet s'entretient avec l'acteur et auteur de théâtre Philippe Cobert, qui joue en ce moment l'intégrale de son plus récent cycle de pièces, L'homme qui danse, au Théâtre du Rond-Point à Paris. Philippe Cobert est né en 1950 à Marseille. Après avoir été comédien au Tex, théâtre d'essai d'Aix-en-Provence, il rejoint en 1971 le Théâtre du Soleil d'Ariane Nouchkine, qu'il quitte en 1978, après avoir joué dans plusieurs spectacles et qu'Ariane Nouchkine lui ait confié le rôle-titre de son célèbre film Molière. À partir de 1980, Philippe Cobert débute l'écriture, notamment à base d'improvisations ensuite retranscrites, sous le regard de Jean-Pierre Taillade et Clémence Massard, de ce qui deviendra son premier spectacle, La Danse du Diable. Prélude d'une œuvre immense, je sais que le mot est galvaudé, mais c'est littéralement ce que je veux dire, œuvre immense qui compte une vingtaine de pièces, dont il est le seul acteur et dont nous allons évidemment parler. À mon sens, l'œuvre de Philippe Cobert est de celle qui réinvente le théâtre classique dont il se réclame effectivement. Elle a été imaginée par quelqu'un qui est à coup sûr l'un des grands créateurs de notre époque, et je pense que nous n'en saisissons pas encore toute l'importance. Alors je sais bien, non seulement je ne suis pas un spécialiste du théâtre, et en plus, l'histoire montre que l'on est rarement clairvoyant quand on juge nos contemporains. Mais en même temps, je ne suis ni critique, ni universitaire, ni historien, je suis compositeur. Et l'histoire nous montre aussi que les créateurs se sont moins trompés que les autres. Vous pouvez vérifier, les statistiques sont de notre côté. D'ailleurs, voici quelques signes de l'importance de l'œuvre de Philippe Cobert. D'abord, Cobert représente pleinement celui que Nabokov définit comme le créateur enchanteur, c'est-à-dire celui qui réussit le tour de force de nous montrer, non pas une quelconque vérité inatteignable, mais l'illusion d'une vérité, ce qui est encore plus merveilleux. Et de plus, cette illusion de la complexité d'une réalité, Cobert nous la donne avec des moyens qui sont en apparence de la plus grande simplicité, seuls sur un plateau vide. C'est simple, quand vous rencontrez des gens sortant d'un spectacle de Cobert et qui vous le racontent, on dirait qu'ils vous racontent un film. Ensuite, les pièces de Philippe Cobert, sans ne jamais rien céder ni sur l'ambition ni sur la complexité du propos, sont des œuvres dont les multiples niveaux de lecture permettent qu'elles soient comprises et aimées du public le plus large et de tous les âges. En bref, Cobert, comme Molière ou Shakespeare, c'est ambitieux, beau, drôle, émouvant, mais surtout, ça n'est jamais ennuyeux et ça s'adresse à tous. Enfin, il est également réjouissant de noter que cette œuvre connaît depuis sa naissance un succès public d'une grande intensité. En observant encore une fois l'histoire de l'art, on se rend compte que le succès frappe au hasard. Certains grands hommes en bénéficient de leur vivant, d'autres pas, il n'y a pas de loi. Philippe Cobert, comme par exemple Stravinsky pour la musique, fait partie de cette première catégorie. Et cela n'a peut-être pas aidé le monde du théâtre contemporain à lui faire une place. Enfant, je l'ai vu jouer dans un vieux gymnase plein à craquer d'un quartier excentré de Montpellier, alors que les théâtres officiels de la ville s'obstinaient à ne pas le programmer. Éternellement décalé, attaché à aucune institution, ni à aucun courant, ni réseau, trop ambitieux pour le théâtre privé, tout simplement peut-être trop singulier pour le théâtre public, il a finalement trouvé sa place, tout en haut. Durant cette semaine avec vous, Philippe Cobert, nous allons parcourir chronologiquement votre vie, tout en abordant de multiples thèmes en relation avec votre œuvre, comme l'autofiction, le temps en théâtre, le cinéma, etc. Mais pour commencer, revenons à votre naissance en 1950 à Marseille, naissance que vous avez d'ailleurs jouée sur scène.
Oh ben écoutez, je suis écrasé sous l'avalanche de compliments que vous me faites, que je reçois, bon, c'est super. Oui, je suis né en 1950 à Marseille. J'ai longtemps dit quand j'étais gamin que j'étais né dans l'hôpital où est mort Rimbaud, mais je crois que c'est pas vrai, je crois que c'était une clinique, tout ce qu'il y a de plus banal. Mais ça me plaisait bien d'être né à la Conception, à Marseille. Mais c'était pas loin, c'était une clinique pas loin. Et voilà... Mon père dirigeait une usine d'huile d'arachide, les savons et les huiles de Marseille. C'était une activité industrielle très importante de la ville de Marseille. Et donc c'était dans le quartier des Chartreux. Et mes grands-parents avaient leur maison, il y avait un petit jardin derrière. Et dans ce petit jardin, il y avait un poulailler. Et mon père avait aménagé ce poulailler en maison. Et ma mère appelait ça la cabane. Et c'était les tout débuts de mes premières années de vie avec ma sœur Isabelle. Et je garde un souvenir féerique, évidemment, de ce lieu, ce petit jardin, dont j'ai beaucoup parlé dans mes spectacles, dont Ferdinand, mon alter ego, parle dans ses spectacles. Et puis ensuite, j'avais 7 ans. On est parti dans ce qu'on appelle aujourd'hui les quartiers nord, parce que mon père, parce que l'entreprise était florissante, donc il y a une autre usine s'est ouverte à Saint-Louis, en face du lycée nord. Lycée Saint-Exupéry, et là on vivait dans cette usine, et mon père avait dessiné et construit une très belle maison, et ça a été la deuxième maison de mon enfance, Voilà, on voyait la rade de l'Estac, il y avait le Mistral que j'ai beaucoup joué ensuite et que je joue toujours dans mes pièces. Et puis je suis rentré en sixième au lycée Nord et j'ai été très malheureux. Il y a cette phrase de Suarez qui me poursuit tout le temps, d'André Suarez, l'école c'est la mort. Pour moi l'école c'était la mort. Et je suis tombé malade. Et après,
quand lycée que vous avez été commencé.
Oui, dans l'école, j'ai connu une école merveilleuse qui était l'école de Toursainte à Sainte-Marthe, qui était une école religieuse, mais avec sous contrat d'État, c'est-à-dire très démocratique en fait. La plupart des élèves payaient pas, et ceux qui étaient favorisés payaient.
Il y avait une éducation religieuse.
Il y avait une éducation religieuse, mais il y avait des profs qui étaient laïcs. Il y avait des. C'était vraiment. C'est drôle parce que pour le marxiste pur et dur que je suis devenu par la suite, vraiment mes seules années de bonheur scolaire ont été dans les écoles privées et les écoles religieuses. J'ai vécu une période absolument merveilleuse dans cette école de Sainte-Marthe, de Toursainte, à Marseille. Et puis j'ai revécu ça en terminale, en 68, à la présentation de Marie au Salon de Provence. Et je garde des souvenirs de lycée, un souvenir d'horreur.
Mais déjà dans cette école primaire, est-ce que vous commenciez à faire du théâtre? Est-ce que vous vous y intéressiez?
Oui, c'est là que vraiment l'idée de faire du théâtre m'est venue, puisqu'il y avait une kermesse à la fin de l'année. Et cette année-là, je vais être en, je sais pas comment ça s'appelle maintenant, cours moyen première année, cours moyen première
CM1.
Année, CM1.
9 ans.
Voilà, 9 ans, et on jouait à la fin de l'année la pastorale, qui est en fait une représentation de la crèche. Mmh. Alors c'était en provençal, nous c'était en français, donc c'était pas, vous voyez, c'était pas des intégristes, c'était pas des faits libres intégristes, et comme j'étais joli, on m'a dit, tu ressembles à une fille, tu vas faire la poissonnière. Et donc, j'étais d'abord très honoré qu'on me dise que j'étais joli, même si c'était sous les tempêtes de rire de mes camarades. Et voilà, et puis j'ai récité mon texte, et mon père m'a dit, ah, fais voir, machin. Il m'a dit, alors j'ai récité mon texte, il m'a dit, ah, mais non, mais faire du théâtre, c'est pas comme ça, il faut que tu joues, il faut... Il m'a emmené voir les poissonnières sur le Vieux-Port, à Marseille. Enfin, il m'a donné vraiment une leçon stanislavskienne. Et alors, il m'a appris à prendre l'accent, à faire des gestes, à...
Parce que dans votre milieu, en fait, on n'avait pas l'accent marseillais.
Non, mon père était un bourgeois marseillais, donc il parlait plutôt comme ça, un peu avec l'accent comme ça des bourgeois marseillais. Et ma mère était parisienne. Claudine était une pure parisienne, vraiment personnage célinien. Et donc, on prenait l'école, on prenait l'accent un peu à l'école, mais dans notre famille, on n'avait pas trop l'accent. Non. Mais par contre, on savait bien le prendre. Et surtout, le secret de tout, c'est que mon père, en fait, quand il était jeune, voulait faire du théâtre. C'était son rêve. Et que mon grand-père, qui était d'une autre époque, d'une autre génération, l'en avait empêché. Il avait fait faire HEC pour prendre sa succession à la direction de l'usine.
Grand-père dont on reparlera, puisque maintenant, je crois que vous habitez dans la maison qu'il
avait
fait construire.
Voilà, exactement. La maison dans laquelle... c'est une maison qu'il avait achetée en 1930 pour y chasser.
Nous y reviendrons.
Et je l'ai rachetée. Et donc voilà. Et donc mon père, en ancien passionné de théâtre qu'il était, et il avait vu Jouvet, il avait vu Villard, il avait vu. Enfin, et un jour je me rappelle, je saute du coq à l'âne, mais j'avais dit mais c'est quoi? Parce qu'il nous emmenait au cinéma voir les grands films, voir Ben-Hur, voir Laurence d'Arabie. Et je disais, mais c'est quoi le théâtre? J'avais jamais vu. Il me dit, ben c'est pareil, mais c'est en vrai. Alors je me disais, c'est extraordinaire, on doit voir Ben-Hur en vrai, Laurence d'Arabie en vrai. C'est inutile de vous préciser que la première fois que j'ai vu, il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée, avec tout le lycée Nord à 4h l'après-midi, hurlant et jetant des objets dans la tête des acteurs, et les acteurs s'arrêtant pour dire, si vous continuez comme ça, on va arrêter de jouer. J'ai pas du tout vu ni Ben-Hur, ni Laurence d'Arabie. Mais bon, j'y ai longtemps pensé, puisque c'est ce que j'essaye de faire maintenant dans mes spectacles, que les gens voient Ben-Hur ou Laurence d'Arabie, même si c'est à travers ma vie. Et voilà, donc j'ai joué la poissonnière, on m'a déguisé, on m'a mis du rouge sur les joues. Et donc j'ai joué une femme, j'ai joué avec l'accent, j'ai fait rire les gens, et j'ai eu tellement de succès qu'on m'a bissé, on m'a dit bis, bis, etc. Et j'ai recommencé. Et j'ai ressenti, vraiment, ça a été une révélation érotique, avant la lettre, puisque je savais pas encore ce que c'était que la sexualité, etc.
C'est celui d'un plaisir intense.
Mais vraiment, ça a été un plaisir absolument inouï. J'étais à 10 centimètres du sol, je planais, et je me rappelle très bien qu'à la fin, quelqu'un, je ne sais plus qui, m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et j'ai dit comédien. Et ça ne m'a plus jamais quitté, et c'est vraiment, alors au début, c'était un peu comme quand on dit, je veux être, je sais pas, cosmonaute, ou c'était, mais cette idée ne m'a jamais lâché. Et l'école a été très importante parce qu'il n'y avait pas encore aujourd'hui, que ce qu'il y a aujourd'hui, toutes les sections théâtrales, etc. Mais chaque fois à la fin de l'année, je savais que mon heure arrivait et que j'allais pouvoir jouer. Alors après, c'était les Stances du Cid, et puis plus tard, les poèmes de Bob Kaufmann, et puis au fur et à mesure de de mon âge et des évolutions idéologiques générales, mais...
Mais ça, vous le faisiez tout seul au départ, ou il y avait quelqu'un qui vous donnait des conseils
Vous étiez pas dans un premier conseiller, c'était mon père. Ouais. Non, après le Stance du Cid, je me le suis fait à mon idée, avec la musique et tout ça. Non, puis après, j'ai fait du théâtre au lycée de l'Empéry à Salon, où j'étais en première avec un proviseur qui était passionné de théâtre. Mais disons, les solos, parce que c'était très important pour moi, les solos, les solis, c'est ça qu'on dit, les solis, oui. C'était moi qui les organisais à ma façon, à ma manière, comme maintenant je fais mes pièces. C'est-à-dire, je mettais la musique, je faisais les éclairages, j'organisais tout. Alors après, il y a eu comme j'étais fan de Johnny, comme tous les gens de ma génération, ma mère, consternée, m'avait offert les photos d'Agnès Varda, de Gérard Philippe, l'album de photos d'Agnès Varda. Et là, elle avait été très maligne parce que d'un seul coup, mon narcissisme adolescent, c'était de porter de Johnny à Gérard Philippe. Et je m'étais dit, c'est dommage, j'ai le nez qui remonte parce que lui, il avait un nez Aquila merveilleux. Moi, j'avais le nez qui remontait et je trouvais ça ridicule. Mais si j'appuie un peu sur le nez et je décollais un peu les oreilles, je lui ressemble un peu. Donc voilà.
C'est vrai, ça c'était votre première ambition.
Alors voilà, je rêvais d'être Gérard Philippe. Et pour moi, Gérard Philippe... Il y avait des photos avec Jean Vilar, mais c'était un acteur seul. Je voyais une poursuite de lumière, et dans la lumière, peut-être j'associais avec Johnny, je sais pas, mais j'associais, c'était un acteur seul. Donc, mais voilà. Après, j'ai eu cette idée de faire ces one man shows, je sais pas comment on peut appeler ça, ces numéros comme ça, tout seul. Alors ensuite, j'ai déboulé dans la vie, si je peux dire, en 68, 69. Moi, j'étais encore chez les sœurs, donc en 68, j'ai fait la révolution avec les sœurs, d'ailleurs, qui a été très révolutionnaire. Les sœurs de la présentation de Marie.
En 68, vous aviez...
J'étais en terminale, j'avais 17 ans. 17 ans. Et on a fait notre comité d'action de la présentation de Marie, très mal reçue par celui du lycée, parce qu'on était des curés, mais bon. Et donc, j'ai débarqué à Aix, à la fac, fin 68.
Mais on y viendra, mais revenons au lycée, puisque nous étions au passage en sixième, et vous nous expliquez...
Donc vraiment, cette idée-là d'être acteur, ça m'est venu au moment où j'ai joué, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas en voyant quelque chose. Et chaque fois que je voyais du théâtre, c'était les matinées scolaires, et j'y pense toujours. J'étais toujours horriblement déçu, quoi. Je me disais, pour moi, le théâtre, c'est ce que je m'imaginais, ce dont je rêvais, cette phrase de mon père, c'est pareil, mais en vrai...
Mais Jean-Philippe, par exemple, est-ce que vous l'aviez vu à part cette jouer,
non,
à part cette
non,
photo, vous aviez
non,
entendu
non.
les enregistrements
Non, même pas. Non, c'est Bruno Raffaelli plus tard qui m'a fait entendre les enregistrements. D'ailleurs, qu'au début, je trouvais ridicule ces enregistrements. Mais c'était les photos. C'était complètement narcissique. Je voyais les photos de Gérard Philippe. Il était beau. Il était asexué. C'était un homme-femme, un prince. On voyait un archange. D'ailleurs, il y avait les phrases d'Éluard. Il y a les phrases d'Éluard à côté. Je l'ai toujours, cet album d'Agnès Varda, qui est magnifique. Des femmes, des visages de femmes.
Pourquoi vous le trouviez ridicule?
Parce que Bruno Raffaelli, mon camarade du lycée, de l'école à Aix, l'école de théâtre du cours Molière. Oui, j'imaginais pas une voix qui me parlait comme ça. Alors, c'est ainsi que tu viens. J'imaginais pas du tout ça. Je voyais plutôt, je sais pas, une voix assez mûre, d'homme, plus calme.
Ouais.
Mais après, plus du tout maintenant, je trouve pas ça du tout ridicule. Je trouve au contraire, on comprend très bien c'est comme quand on entend les enregistrements de Sarah Bernhardt, la tragédie, la voix, il y a une hystérie, ça fonctionne sur l'hystérie. Et c'est justement, même quand on entend Callas, quand elle passe du suraigu à la voix très basse, il y a quelque chose de l'hystérique, quoi. Et c'est ça qui procure qui accroche, quoi, c'est quand même l'expression de la sexualité. Et cette espèce de voix, maintenant, j'aime beaucoup écouter les enregistrements de Gérard Philippe, mais bon. Et puis je sais pas, je crois que, les photos, ça restait plus abstrait, plus imaginaire. Ça fonctionnait plus dans l'imagination. Déjà, la voix, c'est une réalité énorme. La voix, c'est presque qu'on voit quelqu'un, quoi. La voix, c'est un truc extrêmement intime, personnel, concret. Alors que les photos...
C'était le levier à l'imagination plus
grand. Ouais, puis les photos d'Agnès Varda, c'était pas rien, quoi. C'était vraiment... c'est un monde, les photos. Dans mon adolescence, je vois Crin-Blanc, les photos d'Albert Lamorisse. Et les photos de Gérard Philippe, quoi, c'est la même espèce de rêve comme ça, adolescent, encore une fois complètement narcissique et tout ça, mais
Et alors pourquoi cette entrée en sixième, soudainement vous êtes dans un contexte qui vous rend malheureux alors que le début de l'enfance à l'école était si heureux.
C'est-à-dire que moi, l'école primaire, c'était une famille, cette école de Tourcente, c'était même le curé, l'abbé Berton, qui était le directeur de cette école, il était compréhensif, on pouvait aller le voir, on pouvait lui parler des problèmes, quand on avait des avertissements, on pouvait aller voir les profs, leur expliquer, on pouvait discuter avec eux, Bon, puis en plus, c'était une école absolument ravissante. Elle est restée, d'ailleurs, je l'ai retrouvée sur la gloire de mon père, parce que le QG du film était à côté. Il y avait des vaches dans les prés, enfin, c'était le quartier Sainte-Marthe à l'époque, et encore beaucoup maintenant, c'était des terres qui appartenaient à l'église, en fait, ça je l'ai appris plus tard. Donc, était complètement sauvage. On avait une seule maîtresse pour tous les cours, ce qui pour moi était un rêve, là encore, érotique. C'était humain, c'était... Et encore une fois, c'était pas du tout une ségrégation sociale du tout. Il y avait toutes les classes de la société qui étaient là. Il y avait pas encore peut-être autant un mélange de races. C'était pas les mêmes races. C'était les Italiens, les Espagnols, il y avait pas encore les Arabes. Mais disons, ça ressemblait à ça, quoi. C'était un mélange de classes, d'origine, mais surtout, il y avait moins de monde. Alors il y avait pas les filles. Ça c'est vrai. Il y avait pas les filles. Mais c'était
donc
quand
vous êtes
même...
en train de nous dire que c'est à partir du moment où il y a eu les filles que vous avez été malheureux?
En partie, oui. oui. C'était pas que pour ça, mais en partie sûrement. Quand je me suis retrouvé au lycée Nord, c'était 3000 élèves, c'était un des plus grands lycées de France à l'époque. C'était l'ouverture du lycée, et là c'était l'inverse absolu. C'est-à-dire c'est l'administration, c'était la folie totale de l'administration, un peu comme ici. On vient de me refouler à l'entrée de votre honorable maison, donc ça a été un peu la folie de l'administration. C'était les profs différents pour chaque cours. Et les filles, en effet, c'est-à-dire au contraire, les filles, j'attendais ça avec une impatience énorme. Mais là, au lycée Nord, où également c'était un mélange, déjà le mélange des races commençait, et puis le mélange des classes aussi, mais c'était très dur, c'est-à-dire les filles suscitaient chez les garçons des réactions, un climat de violence extrême. Et il fallait immédiatement les attaquer sur le plan sexuel, et moi j'étais très timide à l'époque, je suis toujours d'ailleurs très prude, même si j'avais des rêveries qui ne l'étaient pas. Donc pour moi, aborder les filles sous cet angle-là directement, c'était terrorisant. Et à Marseille, une fille, putain, la nichole, le cul, quoi, putain, l'enculée, c'était ça, c'était toute la journée, enculée, tu l'encules pas. Et moi, je savais pas du tout si je l'enculais ou si je l'enculais pas. Je regardais leur visage, D'ailleurs, j'ai eu ma première amoureuse, Françoise Fafiotte, dont j'étais éperdument amoureux, mais qui, justement, n'avait pas de nichon, donc c'était très mal vu par les autres, alors. Et puis, il fallait surtout pas dire qu'on était amoureux, c'était presque...
C'est la honte, hein.
On était comme en prison, l'univers de l'école, on en a beaucoup je vois beaucoup à la télé, la rentrée des classes et tout, et moi, je peux pas m'empêcher de penser comme, pour moi, la rentrée des classes, c'était comme si je rentrais en prison, quoi. C'était vraiment un univers d'une violence extraordinaire et d'une cruauté extrême et...
Et là, est-ce que vous continuez à avoir des expériences théâtrales au sein du lycée?
Au lycée Nord, à Marseille, en sixième, le prof nous avait fait monter les plaideurs de Racine, où je jouais Petit Jean. Et j'habitais juste en face, j'avais une grande pièce qui était une salle de jeu que mon père nous avait faite dans les caves de la maison, et j'avais proposé, et on avait répété dans cette salle de jeu, et c'était encore une fois, mais pour moi c'était un rendez-vous, chaque année j'avais le rendez-vous avec le théâtre à la fin de l'année, mais ça peut paraître un peu prétentieux, mais plusieurs années après, quand j'ai appris que le théâtre grec se jouait au printemps chaque année juste trois fois, je me suis dit, le théâtre ça pourrait être ça aussi, un rendez-vous exceptionnel où on ne jouerait que deux ou trois fois, une fois par an, et qu'on préparerait toute l'année. Les carnavals, c'est comme ça. Il y a quelque chose de... Le fait de jouer tous les soirs dans un théâtre, que j'aime beaucoup, mais il y a une sorte de déviation, de la vraie nature du théâtre, c'est d'être joué de façon... Comme les fêtes religieuses, ou les...
Que ce soit des rites qui rythment l'année.
Et évidemment que l'émotion que je pouvais avoir à la fin de l'année, que ça soit en sixième ou plus tard en terminale ou avant la représentation de théâtre qui devait clore l'année, c'est une chose absolument extraordinaire, incomparable. Et ce souvenir de cette représentation de Petit Jean et des plaideurs et qui m'avait encore plus encouragé intimement dans mon idée de faire du théâtre. Et puis je me faisais remarquer quand je jouais. Je me faisais remarquer, on m'applaudissait, on me félicitait. Je devais être extrêmement cabotin, Je suis resté, mais peu importe. En tout cas, c'est sûr que, en plus en sixième, je commençais vraiment à avoir des mauvaises notes et ça commençait à aller pas bien du tout parce que vraiment cette ambiance du lycée me convenait pas du tout. Mais c'était le moment où j'avais pour pouvoir me distinguer, être reconnu, et aussi un moment où d'un seul coup, ben voilà, la prof venait chez moi, la prof de français devenait une amie. C'était un moment où à nouveau on retrouvait une famille. Moi, on peut pas vivre sans famille, on peut pas vivre dans un... Et toute ma vie sera la même chose finalement, puisque j'ai été heureux une fois dans ma vie au théâtre, c'est au Théâtre du Soleil, qui est une famille. Et à partir du moment où je me suis retrouvé dans le lycée des centres dramatiques, je n'ai songé plus qu'à une chose, c'est à fuir pour constituer ma propre famille.
Alors, je poursuis chronologiquement. Après le lycée, les premiers cours qui se passent sans doute au moment où vous êtes au lycée, les premiers cours de théâtre, ils sont à Aix, je crois, me souvenir.
Oui. Alors, donc j'ai débarqué après les sœurs à Aix en 68 avec mon bac obtenu juste avec 98% de reçu. C'est le malheur de ma mère, mais j'aurais pu en profiter pour avoir une mention. Et je suis arrivé un jour à Aix pour m'inscrire à la fac de lettres. Mais avant d'aller m'inscrire à la fac de lettres, j'ai cherché un cours de théâtre. Et on m'a parlé du cours Molière au 35 de la rue des Cordeliers. Et j'ai poussé la porte et une deuxième porte dans un magnifique hôtel particulier d'Aix. Et au bout du couloir, il y avait une lumière et une table. Et derrière cette table, une femme blonde, magnifique, comme une apparition vraiment. C'était comme une sirène ou je ne sais pas, une déesse grecque.
Ouais, vous l'avez décrite, enfin vous la jouez.
Je la joue maintenant. C'était Marlène Chambert. Mm-hmm. Qui a été mon premier prof de théâtre et qui m'a donné la formation de l'acteur de Stanislavski. Et voilà, à qui j'ai parlé, qui m'a dit, bah, écoutez, venez demain. Et j'ai commencé par un cours d'expression corporelle, puisque c'était la grande époque. J'ai trouvé ça formidable. Et puis, il y a eu une deuxième dame, un peu moins sylphide, mais tout aussi magique, que je la joue aussi, qui était Micheline Bayard, et qui m'a fait passer un poème d'Apollinaire, le pont Mirabeau. Ça s'est très mal passé. Et ensuite, j'ai vu un acteur jouer l'idiot, la scène de crise de nerfs de l'idiot d'Ossiewski, c'était Bruno Raffaelli. Et là, j'étais d'admiration totale. Et surtout, le pire, c'est que j'ai compris que j'étais pas le seul Gérard Philippe du cours, mais qu'il y en avait 20.
Bruno Raffaelli, qui lui, après, vous le décrivez toujours comme dans vos pièces, comme l'acteur qui lui est allé au conservatoire.
Il a fait le conservatoire, c'était l'acteur classique, et d'ailleurs.
Ouais, il incarne toujours cette
figure-là. Le destin est romancier, puisque aujourd'hui, il est à la Comédie Française, un des piliers de la Comédie Française. Et donc, voilà. Mais on a fait des spectacles ensemble, on a travaillé ensemble.
Alors l'aventure du Tex, justement, qui est le théâtre expérimental.
Non, en fait, c'est arrivé très vite.
Dans vos spectacles, il y a toujours le personnage de Max qui dit le Tex.
Oui, Max est arrivé plus tard, mais dans ce cours, il y avait quelqu'un qui s'appelle Eric Eschen, qui était un metteur en scène, et tout de suite, Marlène et son amie Marianne Sénac, qui faisait le cours le théâtre pour les enfants, m'ont dit, il y a un metteur en scène qui va monter une pièce, on va dans une pizzeria, un café théâtre, la tartane, et c'est Le ciel et l'enfer de Prosper Mérimée, un montage de poèmes de Léo Ferré. Et donc voilà, Eric m'a regardé avec des yeux gourmands, j'étais très joli garçon à l'époque.
Et oui, il y a des photos de vous de cette époque où vous faites assez efféminé.
Voilà, j'étais un peu genre mort à Venise là.
Alors qu'on n'a pas du tout cette image de vous maintenant.
Ah bon ? Non, mais ça me posait un problème, c'est que j'avais un physique qui n'était pas du tout en accord avec ma nature. Non pas que j'étais pas efféminé, j'étais efféminé bien sûr. Mais j'étais surtout, j'attendais qu'une chose, c'était les femmes, moi. Et j'étais terrorisé par les femmes, et je ne plaisais qu'aux hommes. C'était un drame terrible. Ça m'intéressait pas du tout, les hommes. C'était les femmes qui m'intéressaient. Et les femmes, je leur faisais peur, justement, parce que j'étais un peu efféminé. J'étais très féminin, disons. Je pense pas que j'étais efféminé, j'étais très féminin. Et surtout, j'avais un physique qui était pas en accord avec ma nature d'acteur. Moi, j'étais comique, burlesque, je voulais faire des grimaces, je voulais faire le con. C'est là où la rencontre avec Jean-Claude Bourbeau était très importante. C'est que j'ai rencontré un mec qui, lui, alors, était pas du tout efféminé, qui ressemblait à Belmondo, avec un petit costard au mois de novembre, un petit costard de printemps. Et qui m'a dit, qu'est-ce que c'est cette connerie, là? Qu'est-ce que vous faites, là? Qu'est-ce que c'est ce bazar, là? Machin. Et donc, après, j'ai partagé ma vie d'acteur entre ces deux personnages, Eric Eschen, qui faisait un théâtre plus classique, et Jean-Claude, avec qui on faisait n'importe quoi.
Et Jean-Claude Bourbeau, il a participé aussi au Tex?
Oui, bien sûr, il a été aussi engagé par Eric.
Et c'était un théâtre
Tex, c'était Théâtre d'essai d'Aix-en-Provence. Ben, c'est
il y avait
Eric
une volonté
travaillé...
politique derrière
Non,
ce...
non, pas du tout. Eric avait travaillé avec Gabriel Monet. Mm-hmm. Non, c'était plus, à l'époque, de la décentralisation. Donc, il montait des pièces écrites, lui. Il écrivait aussi des pièces, mais Non, c'était pas vraiment politique. C'est par Max, un jour, avec Bourbeau, après on a fait scission, on a monté des spectacles surréalistes, inspirés de Death Note, de D'Artaud, c'est-à-dire absolument n'importe quoi, inspirés de Carmelo Bene, on jetait des seaux d'eau sur la tête des gens, on leur foutait des bancs sur la tête, enfin, je cherchais la tête. Et un jour, Max a pris un seau d'eau sur la tête. Et on le jetait plusieurs fois, le seau d'eau. Et au troisième, il s'est levé, il était au premier rang, il a pris le seau, il l'a renversé sur le plateau. C'est comme ça qu'on a fait connaissance. Et lui était proche de Lutte Ouvrière. Il était très, à l'époque, très militant ouvriériste. Et nous a fait rencontrer la Ligue, la Ligue communiste révolutionnaire. Et la Ligue communiste, qui était beaucoup moins sectaire que LO, nous a dit, voilà, on voudrait célébrer le centenaire de la Commune, on est en 70. Est-ce que vous seriez d'accord pour faire du théâtre avec nous? Et on a monté un spectacle qui s'appelait l'Histoire de la Commune de Paris, avec la Ligue communiste, mais qu'on a détourné, on leur a fait faire les cons. Il y avait à l'époque un garçon qui s'appelle René Frény, qui est un écrivain maintenant, qu'on appelait Néné Dallo. Il était Dallo, et voilà, et on les a fait jouer, on leur a fait faire les cons, et on a joué la Commune dans les quartiers d'Aix, à la fac. En s'inspirant, moi j'avais vu 89, en s'inspirant 1789, du Bread and Puppet, puisqu'il y avait une section de Bread and Puppet à Aix, on jouait partout. Et on écrivait donc nos pièces, on avait écrit cette pièce, et elle s'est constituée petit à petit. Après on a pris la pièce à nous, on a un peu laissé tomber la Ligue, on a juste emmené avec nous Muriel Curialet, qui était une militante absolument ravissante de la Ligue communiste, qu'on a raptée. Et on en a fait un vrai spectacle de théâtre qu'on a joué, grâce à Eric Echen d'ailleurs, en Avignon, en festival Off, à l'époque où c'était encore une aventure, au foyer Léo Lagrange, et là, les choses sérieuses ont commencé.
C'est-à-dire que vous passez du texte au Théâtre du Soleil,
oui.
Et c'est parce qu'Ariane Mouchkine a vu un spectacle du texte.
C'est-à-dire, on est monté à la cartoucherie pour jouer notre spectacle, ça s'est très mal passé. On a été à la tempête, on a eu froid, Max s'est retrouvé à l'hôpital, enfin je veux pas vous raconter tous les détails, et on repartait sur Marseille, quand Jean-Claude Bourbeau m'a dit, figure-toi qu'il y a un mec du Soleil qui est venu, qui a dit, ça serait bien que vous jouiez votre pleuf, enfin bref, il y a eu une intrigue, et on s'est retrouvé sur la route de retour, à Lyon, à Villeurbanne, où jouait le Théâtre du Soleil sous chapiteau 1789, alors jouait notre pièce, Un soir de relâche, où Ariane avait obligé tous les acteurs à rester, et voilà, ça a duré on devait arriver à 8h du soir, on est arrivé à 11h, et donc de 11h du soir à 4h du matin, c'était déjà très long, et ça a été une sorte de coup de foudre. Ils ont beaucoup ri, ils nous ont pris dans les bras, ils nous ont emmené manger après à la brasserie Georges, et elle nous a dit, qu'est-ce que vous faites en ce moment?
Eh bien, Philippe Cobert, je vous remercie. Demain, nous poursuivrons l'aventure de votre vie avec justement ce passage au Théâtre du Soleil.